On mange pas uniquement pour la santé, on mange principalement pour des émotions et des aspects culturels.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. En vous souhaitant la bienvenue dans ce balado santé sans rendez-vous par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, en vedette, la médecine culinaire. Mais qu'est-ce que c'est ça? On va en parler davantage avec nos invités aujourd'hui. Michel Lucas, qui est professeur agrégé au département de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine de l'Université Laval, chercheur au CHU de Québec, Université Laval, chercheur invité à la Harvard T.H. Chan School of Public Health, c'est comme ça qu'on le prononce? D'accord, j'ai fait un effort. Et Michel fait son cours comme chef cuisinier à l'école hôtelière de la capitale. Ça, le cours de chef, est-ce que c'est personnel ou c'est vraiment pour le background professionnel?
C'est une passion qui est là depuis longtemps. Je pense que c'est une confirmation d'un intérêt d'aller faire ses classes, tout simplement, comme chef, d'apprendre les bases. Il y a plein de chefs qui sont chefs de métier, qui vont à l'école hôtelière, justement, pour apprendre les bases, revenir à la base, finalement, de la grande cuisine française. Mais oui, effectivement, c'est une passion. Et puis, ça va de pair avec le cours qu'on est en train de monter à l'Université Laval aussi.
Et à côté de moi, Nawid Younoussada.
Oui.
C'est bien prononcé.
Un bel essai.
OK. Je l'ai prononcé juste une fois, fait que c'était mon seul essai. Nawid, qui est externe senior en médecine à l'Université Laval, adepte de la cuisine du monde, du café et d'émissions culinaires, collaborateur à l'élaboration du cours de médecine culinaire de Michel Lucas et de Dr Sylvie Dodin. Et il est passionné par l'insécurité alimentaire et les inégalités sociales en santé. Justement, ce projet de recherche de médecine culinaire que vous êtes en train de monter, qu'est-ce que c'est et pourquoi vous voulez être pionnier dans ce domaine-là? Parce que je pense que c'est tout nouveau, là. Il n'y a que très peu d'universités qui offrent ce genre de formation-là.
Pour dire la vérité, en fait, ça existe dans les universités anglophones, principalement aux États-Unis. L'Université Laval sera la première mondiale au niveau de la francophonie à mettre en place finalement un cours de médecine culinaire. Depuis 40 ans, en fait, aux États-Unis notamment, on note l'insuffisance de formation des médecins à l'université par rapport à la nutrition.
Okay.
Ils ont essayé plusieurs tentatives de différents programmes et la médecine culinaire est quelque chose de très nouveau, en fait, qui est dans quelques universités. Ça a commencé à l'Université Tulane, à la Nouvelle-Orléans. En 2013, il y a Harvard qui a embarqué par la suite. Récemment, il y a Stanford. Donc, beaucoup de grandes universités, puis j'ai appris aussi qu'il y a en Angleterre, il y en a quelques-unes. Donc, on est vraiment les premiers. Et ce qui est vraiment nouveau dans ce concept de médecine culinaire, c'est qu'on va chercher des compétences en amont pour être capable, justement, d'appliquer, de maintenir et de rétablir la santé. On va bien sûr, passer toutes les notions médicales, mais on va passer un peu une notion en nutrition aussi. Et soit dit en passant, il faut faire le point sur le fait qu'on ne veut pas former des nutritionnistes ni des diététistes. C'est une formation spéciale. Donc, on vient combler un vide d'informations en nutrition auprès des jeunes médecins. Mais on passe par des approches qui sont basées sur le plaisir, sur l'expérientiel, sur la culture alimentaire, sur les cultures de flaveur et tout le reste. On peut en parler longtemps, là. Mais vraiment, on passe par des approches qui sont basées sur le plaisir, parce qu'on pense que c'est par là que ça passe. C'est aussi les approches qu'on dit en anglais « hands-on », donc vraiment la main à la pâte. Les étudiants ont une heure et demie à peu près de cours par semaine dédiés sur différentes thématiques. Nawid va être spécialisé, a fait un travail sur l'insécurité alimentaire. On a aussi un 3 heures que les étudiants vont faire à l'école hôtelière avec un chef certifié qui est Éric Villain, et non le moindre, qui quand même était le chef propriétaire du Clocher Penché, a travaillé chez Serge Bruyère et Olory-Raphaël. Donc, c'est vraiment, c'est mon professeur actuellement. Donc, beaucoup de passion et beaucoup de respect pour ce chef-là. Je ne suis pas le seul, je crois. Donc, on est vraiment heureux d'avoir une participation aussi de l'école hôtelière dans, dans ce projet-là. Donc, on va aller chercher des notions médicales, des notions de nutrition, mais on va passer par des notions qu'on dit en amont, qui est vraiment apprendre à cuisiner, parce qu'on a beau dire aux gens en nutrition, ben, il faut manger plus de légumes, ça fait 50 ans qu'on le répète. Et effectivement, la cuisine, c'est de l'art, hein, c'est de l'art culinaire. Donc, il y a des connaissances de base qu'on doit apprendre, qu'on doit maîtriser. Exemple, faire une sauce béarnaise ou faire une sauce hollandaise, c'est pas facile. Mais une fois qu'on a cette sensibilité-là, qu'on est capable de la réaliser, ben, on peut s'exprimer après ça au niveau artistique. C'est comme n'importe quel virtuose qui va s'exercer, exemple, au violon, mais à un moment donné, il va arriver à une étape où la virtuosité va développer sur la créativité facilement.
Michel, je veux que vous nous parliez de cette pièce au bout du studio. Non, mais vous êtes débarqué avec une belle miche de pain faite maison avec un beurre pommade, je veux dire, un pain au raisin. Moi, c'est le genre d'affaires qui m'allume énormément. Et vous m'avez dit qu'il y avait une belle anecdote reliée en plus à la course à pied, une passion qu'on partage. Nawid, coureur?
À temps perdu.
D'accord.
Mais j'ai essayé de courir, je me suis forcé, mais c'est pas fait pour moi. Par contre, la cuisine, en revanche, ça, c'est fait pour moi. Puis, c'est une des raisons pour laquelle j'ai été interpellé à m'impliquer dans ce projet-là, notamment parce que je suis étudiant en médecine. Je voyais que, de par notre formation, c'était quelque chose qui avait peut-être un peu de... Il y avait une certaine lacune, honnêtement, là, en termes de conseils nutritionnels. On n'était pas outillés du tout, en fait. Puis, moi qui écoute tout le temps des émissions de cuisine de Gordon Ramsay, de n'importe quoi sur YouTube, qui cuisine, qui est abonné à différentes chaînes de recettes préfaites, etc., là, pour pas faire de commanditaire pour rien. Là, mais j'essaie de m'exposer à ça, de pratiquer mes habiletés, puis je trouvais justement que le projet permettait de partager des connaissances à des gens comme moi. Ça, c'est ciblé à des étudiants en médécine pour être un peu plus outillés. Fait que moi, je trouvais que c'était un bon projet. Fait que non, je fais pas de la course, mais de la cuisine, oui. Et c'est un peu pourquoi aujourd'hui, je suis présent au studio.
Alors, l'histoire du pain, on veut la connaître.
Oh là là!
Parce qu'il est délicieux en passant, ouais. Il est vraiment très, très bon.
Quelques années, lorsque j'étais adolescent, je me souviens très, très bien. C'est quelque chose qu'on aimait faire. On allait en vélo, en bicycle à pédale, comme on disait. Dans le temps, on avait des BMX. C'est quelque chose. Et puis, il y avait cette boulangerie. Je viens de la Gaspésie. Et il y avait cette boulangerie dans ce petit village qui s'appelle Chandler. Formidable. Et on allait toujours chercher du pain au raisin, là. Et l'anecdote avec cette boulangerie-là, le pain, et ça me rappelle toujours ce souvenir-là qu'on allait avec mon frère et mon cousin chercher du pain chaud de la boulangerie au raisin. On mangeait le pain au complet. À cet âge-là, on mangeait tout au complet, habituellement. ce qui s'est passé, c'est qu'à l'automne, ils avaient un pommier. Ils avaient un magnifique pommier, des pommes jaunes. Tout à fait délicieuse. Et étant jeune, on aime ça, des fois, sauter les clôtures et relever certains défis. Et puis, le défi était double là-bas parce qu'il y avait un boxeur auprès du pommier. Fait que c'était le défi du petit garçon qui était capable d'aller chercher des pommes dans le fameux pommier. Et puis, finalement, on est allé et le propriétaire, qui est un ami de mon père, d'ailleurs, est sorti. Et puis, comme petit garçon, on s'est sauvé. Mais ce qui s'est passé et ce que les gens doivent savoir, c'est que le propriétaire, Terry Arsenault, est un coureur de marathon.
Oh, il court vite.
Et vite et longtemps. Ouais, c'est vite ça. Et longtemps. J'ai regardé de mes yeux de grand et de coureur la distance de chez eux à pratiquement chez mes parents. Ça doit faire au moins 4 km.
Quand même.
Donc, ça lui a pris 4 km avant de me rattraper. C'est quand même incroyable. Fait que c'est une histoire qui est un peu drôle, puis le lendemain, c'est drôle parce qu'il joue au golf avec mes parents, donc il n'y avait pas de mal, les personnes qui avaient eu de mal, mais c'est drôle que quelqu'un te court après pendant 4 km. Donc, c'est une drôle d'anecdote, cette histoire de pain. Hein.
J'adore ça, qui est délicieux. Soit dit en passant, puis merci d'avoir pris le temps de le concocter de un et de l'amener. Ça me confirme que Michel, au-delà d'être intéressé et surtout expert dans le domaine de l'alimentation pour, en tant que médecin, j'imagine que vous êtes un épicurien, quelqu'un qui a du plaisir à manger, qui a du plaisir à cuisiner aussi, que ce n'est pas un effort nécessairement à faire, plus qu'un, quasiment, c'est ça, une passion, un passe-temps.
Oui, puis c'est bien que vous abordez l'épicuarisme parce qu'on a des échelles aussi qu'on utilise qui s'appellent... on est capable de mesurer finalement si les gens sont des mangeurs épicuriens ou viscérales. Les épicuriens, oui, effectivement, vont passer outre manger quelque chose qui est de valeur nutritive ou gustative déficiente, je dirais, ou qui est trop simpliste. Ils vont attendre d'aller chercher quelque chose qui est plutôt entier et moins transformé. Un cours comme celui-là, ce que vous abordez, c'est l'autorité. Hein. C'est quelque chose qu'on met beaucoup de l'avant. Et puis, la définition que j'aime bien, et puis c'est drôle, il n'y a pas de hasard dans la vie. La dernière conférence que je suis venu écouter, c'était ici, en bas, et c'était organisé par mes collègues de la Maison des leaders. Et c'était Alexandre Jolien, qui est un philosophe suisse que je vous invite à aller voir un peu partout. Il va sortir son film à l'hiver qui s'appelle « Presque ». C'est un ami de Mathieu Ricard. Ils ont écrit des livres ensemble, donc c'est un philosophe assez connu. Puis lui, sa définition de l'autorité, il dit que ce n'est pas un pouvoir qui s'impose d'en haut ni de l'extérieur. Mm-hmm. C'est vraiment une exemplarité, c'est une boussole. C'est une attirance vers quelqu'un qui, ou une personne qui incarne des valeurs qu'on admire et qu'on souhaite finalement se mettre à sa suite, à son école. Donc, un cours comme celui-là a pour but justement de prendre ces jeunes étudiants. On voit qu'il y a un besoin, on sait qu'il y en a un besoin aussi. La littérature le montre, ils ont fait plein d'études, ils ont montré que les étudiants ne parlent pas de nutrition, les étudiants en médecine ne parlent pas de nutrition avec leurs patients parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise d'en parler. Ils ne veulent pas avoir l'air ridicule aussi, donc ils ne se sentent pas confortables et aimeraient donc ça peut-être aussi aborder la chose. Et c'est une occasion formidable parce que la santé, c'est un travail d'équipe. Ils ont quand même un rôle très important. Ils ont la confiance des patients. Ils ont la confiance de leurs collègues aussi. Donc, c'est important que les médecins soient éclairés justement par rapport à toutes ces notions-là pour être capables de gagner un peu de terrain puis faire des bons points par rapport à nos patients, puis de bien les orienter, pas juste dire « mangez-vous bien, oui, c'est fini là ». D'ailleurs, Nawid a eu la chance, et on a eu la chance aussi de les avoir comme étudiants, ils ont travaillé sur différentes thématiques, parce que les cours sont organisés par thématique. La thématique que Nawid avait choisie, c'était l'insécurité alimentaire et aussi les inégalités sociales de santé. Puis il y a un beau contexte qui peut vous parler par rapport à ça. C'est vraiment quelque chose d'intéressant où, comme médecin, on peut faire un faux diagnostic ou mal orienter un patient à cause de qu'on n'a pas pris le temps de bien poser les questions.
Mais... Oui. À ce sujet, justement, j'ai contribué au cours avec Kim Turbid, qui est une autre externe. Puis, en fait, pour qu'un médecin puisse s'embarquer dans cette discussion-là, il faut quand même qu'il ait une certaine connaissance. Puis, des fois, il y a l'enjeu du temps là, dans le bureau. On sait qu'on a à peu près 15 minutes pour voir le patient, le questionner, etc., etc. Donc, on a essayé d'élaborer des stratégies, de trouver des stratégies qui permettent aux médecins de peut-être... être en mesure de premièrement dépister des personnes qui sont à risque d'insécurité alimentaire. Puis quand on parle d'insécurité alimentaire, on parle d'un état dans lequel une personne n'est pas capable d'avoir des aliments qui sont nutritifs. Pas juste d'avoir une quantité d'aliments, c'est pas le fait d'avoir, par exemple, du fast-food. C'est aussi quelque chose qui répond à des besoins nutritionnels qui est important. Quand on parle de ça, c'est d'être capable de faire le dépistage, puis que ça soit quelque chose qui soit applicable dans la vie de tous les jours. Dans le cadre de notre projet, on a essayé de faire le recensement des données, de voir, bon, est-ce que c'est vraiment un problème, l'insécurité alimentaire? Puis effectivement, c'en est un. Pourquoi? Parce que c'est à peu près 9%, 10% de la population ici, là, au Québec, au Canada aussi, là, qui est touchée par l'insécurité alimentaire modérée ou sévère, ce qui veut dire qu'il manque d'aliments là, à un certain moment.
Pardon, pour quel genre de raisons? Est-ce que c'est des raisons financières? Est-ce que c'est des raisons de géolocalisation? C'est-tu physique? Pourquoi ces personnes-là sont à risque d'insécurité alimentaire?
Les études en soi, c'est difficile d'avoir des études qui démontrent une causalité dans ce domaine-là, étant donné qu'on ne peut pas prendre un groupe d'individus puis mettre la moitié la moitié des gens pourraient pas mal manger, puis l'autre mange bien, puis on essaie de voir les outcomes, ce qu'on dit. Mais ce qu'on est capable de remarquer, c'est de faire une étude démographique, puis de voir, bon, c'est qui les personnes qui sont à risque. Et ce qu'on retient, c'est qu'il y a des individus, justement, c'est le lien avec les situations d'inégalité sociale en santé, c'est que les personnes qui sont plus à risque d'insécurité alimentaire, bien, souvent, c'est des personnes qui sont des personnes qui ont des revenus plus faibles, par exemple. Il y a différentes analyses, là. Puis les personnes qui ont des revenus plus faibles, les personnes qui bénéficient, par exemple, de l'aide sociale ou de prestations d'assurance d'emploi, les personnes qui sont locataires sont aussi beaucoup plus touchées par l'insécurité alimentaire. Ensuite de ça, il y a différentes variables comme ça. Puis aussi la répartition géographique. Par exemple, à la Capitale-Nationale, c'est la région qui est la moins touchée. C'est sûr qu'au sein de la Capitale-Nationale, il y a des endroits où c'est plus touché, là, mais au Québec, par exemple, c'est Montréal qui est le plus touché. Fait qu'on est capable d'avoir une idée là, de la répartition de qui est davantage touché. Et ce qu'on a remarqué, c'est que pour le diabète, les gens de la population générale, il y avait des études qui ont été faites, mais grosso modo, c'est que les personnes qui sont atteintes de diabète souffrent plus d'insécurité alimentaire. Ça, c'est ce qui est ressorti. Puis pour ce qui est de l'obésité, la dynamique est différente. Ça, c'est plus intéressant dans le sens que, dépendamment du sexe de la personne, ça va l'atteindre différemment. Mm-hmm. Par exemple, une femme qui souffre d'insécurité alimentaire va... En fait, l'association est que la personne est plus à risque d'obésité, alors que quand c'est un homme... Ben, va davantage souffrir d'insuffisance de poids. Fait que c'est à se dire, ben, après ça, on peut se poser des questions à savoir pourquoi est-ce que l'obésité, pourquoi l'insuffisance de poids, puis il y a différentes données qui ont été ressorties, là, par exemple, dans les pays développés, l'insécurité alimentaire mène davantage à des problèmes de surpoids, alors que dans les pays sous-développés, c'est l'inverse, c'est les sous-poids. Fait que là, on se dit, ben, probablement que les gens, parce qu'ils manquent de ressources, de ressources financières peut-être, ben, vont se tourner vers des solutions plus faciles, mm-hmm. plus faciles d'accès, mais au détriment d'une qualité nutritionnelle adéquate, du fast-food, des plats préparés, mm-hmm. des plats congelés, etc., ce qui va les mettre à risque de maladies chroniques. Fait que c'est un peu ça, les associations qu'on a retrouvées. Fait que c'est d'autant plus important, justement, d'y porter attention quand un patient se présente à notre bureau. Fait que c'est de faire le dépistage, de travailler sur les différentes stratégies d'adaptation, de valoriser justement la qualité des repas par rapport aux quantités de repas, par exemple. Puis aussi, on a remarqué que les personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, ils ont aussi une moins bonne gestion de leur maladie.
Oui.
Puis ça, c'est par rapport au diabète. Ce qu'on a ressorti, c'est que les personnes vont plus souvent avoir des hypoglycémies, par exemple. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération dans le contexte où un patient qui se présente, qu'on va avoir dépisté, justement, qu'on va dire, bon, personne-là est à risque d'insécurité alimentaire, ben je pourrais faire attention à ces médicaments qui sont contre le diabète. Fait que de choisir des médicaments qui vont le mettre moins à risque d'hypoglycémie parce que ces gens-là vont faire davantage de crises, vont se présenter plus à l'urgence. Il y a des coûts pour la société, mais il y a des coûts aussi pour l'individu. Fait que c'est de prendre tout ça en considération. Fait que c'est ce qu'on était capable de ressortir dans ce cours-là qui va être présenté à nos étudiants là, plus tard.
Je me mets en contexte d'une consultation chez le médecin, OK? Puis je me fais poser plein de questions, puis je sais pas si c'est... Est-ce que je généralise ou j'ai l'impression qu'au Québec, on n'a pas d'éducation nutritionnelle? Tu sais, je me fais poser, par exemple, la question que vous avez posée, Nawid. Pensez-vous manquer de nutriments? Pensez-vous manquer d'aliments? Mais la personne qui, elle, considère qu'elle mange bien, alors qu'elle mange pas du tout bien... Elle va répondre, ben non, je pense pas avoir manqué de nutriments ou d'aliments quelconque dans la dernière année. Et comment on peut... C'est ça, je me demandais, est-ce que y a-tu un manque d'éducation nutritionnelle au Québec? Est-ce que on se compare bien, par exemple, à d'autres cultures aussi? Je veux dire, on est quand même considéré comme un pays riche, un pays éduqué, tu sais, au Québec, au Canada. Mm. Là. On se compare comment avec le reste de la planète par rapport à ça? Parce que des fois, j'ai l'impression que je jase avec du monde. Moi qui m'intéresse à la nutrition, des fois, je jase avec des gens de mon âge, avec des gens plus vieux, plus jeunes, puis je me dis, mon Dieu, on est à des lunes, des fois, là, tu sais.
Je peux pas réfuter ce que vous dites et je peux pas donner de résultats, mais on vient de prendre les données du Canada, on vient de les analyser. Ça va être soumis pour publication sous peu, mais on est aussi pire que les Américains. Mm-hmm. On a évalué la qualité alimentaire et on utilise des échelles qui sont validées et reconnues. Ça a été fait aux États-Unis. Et on est vraiment au bas de l'échelle au niveau de la qualité alimentaire. La qualité alimentaire, c'est facile. C'est 10 facteurs que la majorité des gens connaissent. Ça fait 50 ans qu'on le répète, manger des légumes. Mm-hmm. La pomme de terre, c'est pas un légume en passant, c'est un féculent. Donc, ça rentre pas dans les légumes.
Non, OK, ça rentre pas dans les légumes.
Non,
okay,
ça rentre pas dans les légumes. Et même chez les diabétiques, ça considérait comme un féculent. Donc... Et c'est une erreur. Et même quand on regarde les 10 légumes les plus consommés, Santé Canada, autrefois, les considérait dans les légumes. C'est 3 légumes sur 10. C'était des pommes de terre frites et pommes de terre chips. Donc, on part de loin. Et le premier légume, c'était la laitue. Donc, on est un peu loin de l'endive ou de l'aubergine. Oui. Hein? Et puis, c'est bien parce que ce qu'on a remarqué, peut-être un état de réponse, on a regardé... quand on a regardé la qualité alimentaire, mais la qualité alimentaire chez les immigrants au Canada, elle est plus importante que les Canadiens eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, ça fait état, finalement, d'une certaine culture alimentaire qui est déficiente. Faut dire en passant qu'on prend des bouchées d'eau, ben, on est quand même un jeune peuple comparativement à des peuples européens. Et je pense qu'on se nourrit beaucoup. Il y a une certaine partie de la population qui est très sensibilisée. L'environnement alimentaire est quelque chose d'immensément important. Il y a quelqu'un, justement, le père fondateur du syndrome métabolique, là, il s'appelle Josh Bray. Il dit en anglais, c'est « Genetic loads the guns, but the permissive and the toxic environment pull the trigger ». Ça veut dire que la génétique, oui, c'est important, ça va charger l'arme ou le fusil, mais c'est vraiment l'environnement qui est permissif et toxique qui va appuyer sur la détente. Oui. Et il y a une phrase il y a quelques années, j'en ai les frissons, là, avec la photo qui l'accompagnait, l'obésité infantile, en fait, ça ne découle pas de choix qui sont effectués par les enfants, ça découle d'environnements qui sont créés par la société et soutenus par les politiques gouvernementales en place. Donc, l'étiquetage nutritionnel, lire les ingrédients, les food labeling, les labels alimentaires riches en gras, faibles en ci, faibles en ça. Vous savez, le gros bon sens, quand on regarde un bleuet, quand on regarde un brocoli ou présentement peut-être le chou, le navet, il n'y a pas d'allégation nutritionnelle. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et l'industrie crée ce genre de discours pour justement faire croire aux gens qu'en utilisant la science, ce qu'on appelle des fake food, des faux aliments, finalement, on peut arriver à quelque chose qui est meilleur que des vrais aliments. Et je pense que le discours est en train de changer. Et je le vois beaucoup aussi sur les jeunes générations d'étudiants qu'on a. Ils sont très intéressés par l'alimentation, très intéressés aussi par le véganisme, le végétarisme. Donc, les considérations planétaires en font partie. Et tantôt, on parlait des raisins. Et donc, la canneberge est au Québec. Il y a des considérations environnementales avec la canneberge aussi, mais il y en a peut-être moins qu'avec le raisin. Donc, il y a plein de considérations à prendre dans nos gestes de consommation, dans nos assiettes, et d'avoir des médecins qui sont sensibilisés. On parlait d'insécurité alimentaire tantôt. Il y a une belle formation que j'ai eu la chance d'avoir avec un médecin spécialisé dans le domaine aux États-Unis. La sécurité alimentaire est quand même un petit peu plus importante. Il recevait un jeune patient dans son bureau avec sa grand-mère. Il pose la question au jeune enfant s'il mangeait tel légume. Il dit « Oui, j'adore ça. Est-ce que tu manges l'autre légume? Oui, j'adore ça. » Après la troisième question, la grand-mère, elle l'interrompt, elle dit « Écoutez, docteur, on adore ça, mais on n'a pas les moyens de manger ça. » Puis lui, après ça, il s'est mis dans un scénario où justement, on a travaillé sur la sécurité alimentaire. Il dit « Si je n'avais pas eu cette sensibilité-là par rapport à la sécurité, on ne parle même plus d'insécurité alimentaire, on parle d'insécurité nutritionnelle maintenant parce que il y a la sécurité alimentaire, Nawid l'a bien dit, c'est quand on manque certains aliments, mais la sécurité nutritionnelle, c'est quand on mange des aliments, mais exemple des aliments de dépanneur, les gens vont bien comprendre, ou des aliments ultra transformés qui finalement constitué principalement de sucre, de gras, de sel et de produits chimiques dont on n'est pas capable de nommer. Et donc, il fait le portrait de ce jeune garçon qui est en avant de lui, qui a 13 ans, qui est déjà en surpoids. Elle le revoit à 25 ans, complètement obèse, commence à avoir du prédiabète. À 30 ans, il est déjà diabétique. À 35 ans, déjà sur médication pour le diabète. À 40 ans, fait sa première crise cardiaque. Il décède à 45 ans. C'est finalement passé au côté de quelque chose qui était lié à l'alimentation et on le voit bien avec... il y a plusieurs choses là-dedans, là. Je veux pas faire de polarisation, mais quand même, quand on regarde les nations autochtones, notamment les populations cris, si vous allez voir les anciennes photos, c'était des mâles et c'était des femelles incroyables. Là. C'était des hommes d'une envergure physique forte. Mm-hmm. Et maintenant, et je pense que c'est un des endroits où le niveau d'obésité et de prévalence de diabète est le plus élevé. On parle de 25 %, donc 5 fois plus que la population québécoise. C'est énorme. Et c'est sûr qu'il y a une perte de culture, une perte d'alimentation qui est là et tout ce qui va avec. Mais aussi un déracinement, finalement, par rapport à l'alimentation et consommer des produits qui sont ultra transformés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens ne mangent pas de fruits, les gens ne mangent pas de légumes. Ça peut les apprêter. Manger des légumes, ce n'est pas manger un bout de céleri et manger un bout de carotte ou un bout de brocoli cru. C'est d'être capable de cuisiner. J'ai envie d'endive, là. Ou d'aubergine. L'aubergine est l'exemple parfait. L'aubergine est probablement le légume le plus prisé des cuisiniers. Et si vous avez déjà mangé de l'aubergine mal fait, vous n'en mangerez plus jamais d'autre
c'est
de
ça.
Votre vie. Hein.
Oui, bien, c'est ça. Le côté comment apprêter les aliments, je pense que c'est l'enjeu principal de quiconque s'intéresse à la bouffe et... Ouais, mais ça goûte rien. Ouais, mais c'est pas bon. Ouais, mais c'est, tu sais, l'aliment transformé que j'achète, il goûte bon. Bon, parce que probablement qu'il y a du sel et plein d'ajouts comme ça. J'aimerais ça qu'on aille dans le concret de comment après. Tu sais, bon, de un, ce que je comprends, Michel, de ce que vous dites, c'est que plus c'est transformé, moins c'est bon. C'est ça?
Bon, au niveau du goût, moi, je peux le dire et immédiatement. J'ai aucun problème avec ça. Je trouve que ça, c'est insipide.
Mais quelqu'un qui est habitué de manger des aliments transformés, on va lui faire manger des aliments simples, des légumes, des fruits, va trouver ça plate, on s'entend. Là. Comment on peut faire pour transformer, pour changer cette habitude-là, faire en sorte que la personne qui est habituée aux aliments transformés va apprécier manger des aliments sains, des aliments d'une qualité nutritionnelle qui est haute, en ayant l'impression que ça goûte son aliment transformé qu'il avait l'habitude d'acheter avant.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un personnage en 1825, ça fait quand même déjà 200 ans, Brillat Savarin a déjà dit « La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile. » C'est une prémisse qui est vraiment intéressante parce que quand on goûte un mets nouveau qui est apprêté, là, j'ai en tête là, la fameuse recette d'endive. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'endive, on la coupe en deux et on va trancher des fines tranches de pommes qu'on va insérer à l'intérieur de chaque feuille de l'endive. On va la faire légèrement rôtir à la poêle et on va terminer le tout un peu avec du beurre et un petit peu de sirop d'érable. Donc, ça devient quelque chose qui...
Très bon.
Oui, c'est très bon. C'est très savoureux. Très bon et très savoureux. Et donc, c'est ça. Donc, quand les gens... Le plaisir, en fait, même le plaisir, il y a eu une collègue là, qui a écrit que le plaisir était probablement le cinquième P du marketing social. Et vraiment, quand on regarde aussi la grande industrie, vous savez, il n'y a personne qui fait des choses méchantes là-dedans. Il n'y a personne qui se réveille le matin pour vouloir faire du mal et faire engraisser les gens à les rendre obèses. Les gens font leur travail et ce qui se passe, c'est que sur le marché actuellement, particulièrement, c'est ce que Nawid disait tantôt, en milieu nord-américain, ou les milieux bien nantis, la nourriture, elle est disponible 24 heures sur 24 à prix raisonnablement bas. Et c'est vrai, le secret de l'industrie, il n'est pas compliqué. En fait, c'est d'utiliser finalement des ingrédients qui sont le moins chers possible, d'y ajouter du sucre, du gras et du sel. Ça s'appelle le bliss point. En français, on dit le point d'extase. Ça a été trouvé par un chercheur. Donc, c'est quand on joue avec ces trois niveaux-là, mais on va utiliser d'autres molécules. Et donc, on va utiliser des produits qui sont peu chers. Donc, on arrive à des produits peu chers qui, quand même, ont un goût intéressant. Et donc, on peut en manger à tous les jours. Et c'est le message qui est lancé. Le message va plus loin que ça, de dire aux gens, ben, cuisinez pas, on va cuisiner à votre place. Avec la science, on y arrive, c'est mieux. Puis en plus, quand vous faites à bouffer, c'est compliqué. Puis en plus, il va falloir ramasser. Ça, c'est vrai. À la fin, il faut toujours ramasser. Il y a toujours beaucoup de vaisselle. Mais ça vaut la peine de partager ce travail-là, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait, oui, pour soi un peu, mais surtout pour les autres.
Vous disiez que la population immigrante au Québec, c'était celle qui assurément avait une qualité alimentaire.
Au Canada,
qui avait une qualité alimentaire plus forte que les habitants même, les personnes originaires même du pays. De quelle culture on doit s'inspirer justement en termes de régime, j'aime pas ça dire le mot régime, mais de régime alimentaire, de choix alimentaire et tout ça. Y a-t-il des cultures particulières de qui on devrait s'inspirer justement pour cuisiner? Puis c'est quoi la base alimentaire? C'est quoi la base de ces cultures-là pour savoir, bon, ben mon Dieu, moi, je vais cuisiner comme eux, mais je sais pas comment faire, tu sais. Qu'est-ce qu'on doit suivre comme recette de base, justement, pour être capable de les imiter ou du moins de s'en inspirer?
Je me sens mal de prendre la parole devant quelqu'un qui est de l'Afghanistan. Je suis beaucoup en admiration au Tolangi. Qui est un chef afghan, qui est un chef qui m'inspire beaucoup dans la préparation des légumes. Le cours de médecine culinaire est un peu partout dans le monde, notamment à l'Université Tulane et aussi à Stanford, en Californie, vont utiliser le mode alimentaire méditerranéen, qui est un mode qui est quand même prouvé pour son impact au niveau de la santé cardiovasculaire et d'autres problèmes. Donc, qui est une alimentation frugale aussi. L'huile d'olive en fait partie, c'est une bonne part, beaucoup de légumes. Et c'est un peu le secret aussi de la cuisine, c'est que quand on mange des légumes verts, l'huile d'olive, ça ajoute un peu de gras, mais aussi ça ajoute beaucoup d'onctualité. C'est génial. Donc, c'est vraiment l'ingrédient primaire. Et aussi, le mode alimentaire à base de plantes. Donc, c'est vraiment orienté sur quelque chose qui est méditerranéen et à base de plantes. Et bien sûr, le modèle afghan et les pays du Maghreb sont des cultures incroyables où on a juste à penser à de la tagine, on a juste à penser à les couscous. C'est simple, le couscous, la taboulée, mais une vraie taboulée, c'est excellent. C'est une salade qui se garde longtemps au réfrigérateur et après quelques jours, elle se bonifie, mais on doit être sur une note acide et légèrement salée. Donc, c'est...
Effectivement, puis aussi, c'est des régimes qui comprennent beaucoup de légumineuses, chose que ici, moi, quand je passe devant l'allée des légumineuses, ça a l'air très fade, pas grand-chose. Ça coûte pas cher, en fait, fait que ça devrait être accessible pour les personnes qui manquent un peu de moyens financiers et pourtant très bénéfique pour la santé. Par contre, moi, j'arrive là, je suis dans la tranche d'âge de personnes qui sont ciblées là, donc, par le cours, puis j'arrive là, puis je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Je passe, puis je m'en vais chercher des légumes que je sais avec lesquels je suis à l'aise. C'est tout le temps les mêmes légumes que je vais chercher. Mais par contre, ce régime-là, c'est moi, personnellement, je ne cuisine pas beaucoup avec ça, mais les gens qui viennent du Moyen-Orient sont très habiles avec ces légumes-là. Puis je pense que ça peut être très bénéfique aussi au niveau cardiovasculaire, surtout que ça coûte pas cher. Fait que ça devrait être quelque chose qu'il faudrait développer davantage, ces aliments-là qui sont très accessibles pourtant.
Avez-vous justement un top 5, maintenant que vous vous concertez, ou ça peut devenir un débat, là, chacun ses aliments, un top 5 bonbons pas chers, d'aliments qui coûtent peu, on s'entend, là, qui sont pas hors de prix, mais qui sont extrêmement bons pour la santé. Là, je pense que les légumineuses, d'après moi, devraient faire partie de ce top-là.
Certainement.
Mais si on se dit qu'on se fait un top 5, là, on essaie de se rendre jusqu'à 5, d'aliments qui sont, tu sais, ultra bénéfiques pour la santé, mais très abordables aussi.
Vous abordez quelque chose qui m'interpelle parce qu'on ne mange pas uniquement pour la santé, on mange principalement pour des émotions et des aspects culturels. C'est d'ailleurs un certain problème dans le domaine de la nutrition, si on pousse l'aspect plus loin, de dire, écoutez, ça c'est un aliment santé, il faut manger cet aliment-là, c'est un santé, ça c'est pas santé, il ne faut pas le manger. Pousser à l'extrême, ça mène à ce qu'on appelle l'orthorexie. Et donc, je pense que c'est important de faire comprendre aux gens qu'il y a trois grandes catégories d'aliments. Il y a des aliments qu'on dit quotidiens, des aliments d'occasion et des aliments d'exception. Et le problème qu'on a actuellement en milieu nord-américain, un peu partout sur la planète, c'est que les aliments d'exception sont rendus des aliments quotidiens et l'inverse. Donc, c'est ça qu'il faut renverser et il y a au gré des saisons plein d'aliments qu'on peut cuisiner et c'est ça qu'il faut mettre là en face.
Ce serait quoi, là, pour être concret, un aliment d'exception slash un aliment du quotidien, juste pour faire la différence?
Bien, présentement, par exemple, si on prend le chou, ou les différentes formes de choux, ça peut être quelque chose d'intéressant à cuisiner. D'exception, ben, vous les connaissez tous, hein, c'est ceux qui ont beaucoup de marketing, quand vous l'achetez. Maintenant, avant, on avait des rabais pour aller acheter de la bouffe. Maintenant, quand on achète de la bouffe, on a des rabais pour l'essence. tous les petits gâteaux que vous connaissez qui sont ultra transformés, les croustilles que vous connaissez, en fait... toutes les ultra transformées, finalement.
Et jusqu'à quel point, quand on parle de cuisine du monde, là, et puis je reviens à mon exemple de « ça goûte rien ce que tu as fait, je comprends que c'est santé, mais ça ne m'intéresse pas, ça goûte rien », parce que la personne est habituée de manger des quantités de sel et des quantités de sucre dans ses aliments transformés, jusqu'à quel point les épices peuvent être une alternative justement à ces sels, à ces sucres-là, j'imagine. Puis j'ai l'impression qu'ici, les épices, on ne les connaît pas, on ne les cuisine pas assez. Bon, oui, il y a des fines herbes au Québec, mais au-delà de ça, je pense que les épices viennent vraiment d'ailleurs et jusqu'à quel point l'intérêt est là de les cuisiner.
Les épices, déjà, en partant, il y a la qualité des épices. Il y a plusieurs... bonnes épices. À Montréal, il y a celle de Philippe de Vienne. Les épices du cru qui sont d'une qualité exemplaire. Donc, on est vraiment chanceux. Par rapport à ces ingrédients-là, je pense qu'il faut revenir aussi aux saveurs essentielles. D'abord, il faut être capable de connaître les différentes saveurs. Exemple, moi, je donne souvent et régulièrement de ces temps-ci une formation sur l'umami qui dure une heure et demie. Beaucoup de gens qui échoueraient l'examen que je passe ou que je demande, en fait, des questions lors de la formation, les gens ne connaissent pas l'umami, ne savent pas comment cuisiner avec l'umami. Et pourtant, c'est une saveur essentielle.
Qu'est-ce que le umami
pour
quelqu'un qui ne connaît pas ça comme
en
moi?
En fait, combien de saveurs savez-vous identifier?
Mais là, les saveurs, et c'est, moi, j'ai l'impression des fois, quand on parle de saveurs, c'est comme fraise, framboise, citron, là. Mais j'imagine que c'est plus l'amer, c'est tout ça, le côté amer, le côté sucré,
salé,
vinaigre, aigre,
acide.
Ça se peut-tu?
Acide, oui. Et le cinquième, c'est l'umami. Oui, oui.
Ah, c'est ça!
Bon, l'umami vient d'une contraction de deux termes. En fait, ça a été découvert en 1909. Umai, qui veut dire savoureux, et mi. Qui est le goût. Donc, le goût savoureux, tout simplement. Donc, et ce qui est intéressant, et puis il y a beaucoup de science à cet égard-là de l'umami, on connaît les récepteurs. Le problème, c'est que quand vous allez au Japon, eux sont capables d'identifier un aliment particulier quand on leur parle d'umami. Ils ne vont pas nommer l'umami comme tel, ils vont dire le dashi. Et l'umami est vraiment intéressant parce qu'il a la capacité de diminuer la sensation d'amertume. Donc, si vous mangez quelque chose qui est légèrement amer, et d'ailleurs, l'être humain est peu favorable à l'amertume, on n'aime pas vraiment beaucoup l'amertume, parce que dans la nature, ça peut être quelque chose qui est toxique. Et contrairement aux chèvres, qui sont probablement très, très habitués à la chose, le loup aussi est très, très difficile par rapport à l'amertume. Donc, c'est dans l'évolution. Et de savoir cuisiner avec différentes sources d'umami, on est capable de réduire justement cette sensation d'amertume. Et donc, les légumes deviennent intéressants. Et c'est souvent, on peut utiliser, exemple, la sauce de poisson qu'on retrouve souvent, le nuoc mam, qu'on peut mettre sur des légumes verts avec de l'huile d'olive et un peu de sauce soya. Donc, on va chercher deux sources d'umami différentes. Il y en a aussi dans la sauce soya, dans la bonne sauce soya, et dans la sauce de poisson. Donc, on vient mettre quelque chose sur notre produit en diminuant justement cette sensation d'amertume. Et L'umami, ça veut dire savoureux. Donc, c'est quelque chose qui est persistant et qui goûte bon en bouche. Et je donne beaucoup de présentations aussi à des chefs cuisiniers pour leur apprendre, justement. Et ils changent leur façon complètement de cuisiner avec l'umami. Parce que c'est vraiment intéressant. C'est une saveur qui veut dire goût savoureux. Donc, il y a toute une éducation. Le meilleur exemple qu'on pourrait faire, malheureusement, c'est un peu difficile par ces temps-ci, c'est de prendre un parmigiano reggiano de 12 mois le goûter et consommer ensuite un parmigiano reggiano de 36 mois, beaucoup plus vieux, plus de maturité, et de revenir aux 12 mois. Vous allez comprendre ce que c'est l'umami. Okay. Et c'est quelque chose qui est comme rond en bouche, tout est équilibré, c'est savoureux, c'est miam. Quand on fait miam, c'est souvent associé pas mal à l'umami. Mm-hmm. Donc, là, on est juste en train de parler des 5 saveurs essentielles. Vous avez énuméré les épices, il y a toutes les herbes. Là, demain, c'est la pizza napolitaine à la maison. Donc, la pizza napolitaine, c'est pas quelque chose de compliqué. Hein. Il s'agit d'avoir une bonne sauce tomate. La tomate contient du glutamate, qui est la première substance qui provoque cette saveur umami. Alors, si on y ajoute un petit peu de champignon, on vient jouer sur deux molécules différentes. Donc, il y a un effet de synergie. Et l'huile d'olive sur la pâte à pizza au levain, et puis du basilic frais, cuit à la perfection avec de la semoule, c'est...
Je peux-tu m'inviter?
Pourquoi pas?
Mais moi, l'umami, j'ai pas... en fait, oui, je connais ça, mais j'ai peu été exposé à cette saveur-là. Puis je me demande, en fait, les gens qui sont exposés davantage à des produits qui sont sucrés, pour lesquels il y a justement une réponse neuroendocrine qui prône un peu l'addiction là, à certaines limites. Comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher ces gens-là puis faire un shift vers quelque chose qui est davantage... qui est de saveur umami et qui probablement, je comprends que le but, c'est pas d'être tout le temps nutritionnel, mais c'est quand même un objectif à avoir là, dans un contexte de sécurité alimentaire ou nutritionnelle. Et comment est-ce qu'on est capable d'aller chercher ces gens-là qui sont tout le temps dans le même pattern, là, qui sont tout le temps aussi, là, c'est des personnes qui habitent dans des secteurs où la densité de ces fast-foods sont plus élevées, les aliments, bien, c'est souvent plus de dépanneurs, etc. La qualité d'aliments qui est offerte est moins variée, c'est d'aller chercher ces gens-là que je vois. Je me questionne à savoir comment est-ce qu'on serait capable de faire ça finalement là.
Pour ma part, là, je pense qu'il y a plusieurs solutions, puis il faut les trouver ensemble, c'est collectivement qu'on va les trouver, mais. C'est, pour ma part, je pense que c'est vraiment l'expérience sensorielle les exemples qu'on a énumérés, quelques exemples qu'on a énumérés. Se rappeler ce que Bria Savarin disait aussi par rapport à la découverte d'un mets nouveau. Je pense que c'est vraiment par l'expérience qu'on peut découvrir et de le rendre disponible après aussi, d'aider. Les cuisines collectives en sont des bons exemples. Mais ça fait peur un peu parce qu'ils ont fait une expérience en Angleterre où ils ont fait un grand marché virtuel. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement pour les aliments, ce que je veux dire, c'est qu'ils l'ont remarqué aussi pour la bière, pour le papier de toilette, pour les différents détergents. Ils donnaient des coupons aux gens. Et les gens allaient utiliser le coupon beaucoup plus rapidement s'ils connaissaient le produit. Et s'ils ne connaissaient pas le type de produit, ils ne l'utilisaient pas. Ce qui a fait dire aux auteurs, ils ont fait plein de différentes analyses, c'est que les gens achètent ce qu'ils connaissent et non pas ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est un peu épeurant actuellement quand on voit les jeunes enfants qui ont de la difficulté à savoir que le lait vient d'une vache qui a eu des enfants et il fallait qu'elle soit enceinte pour donner du lait. Et donc, on part de loin. Là, je pense qu'il faut revoir notre cahier de charge, notamment à partir de l'école. Et puis, ce serait vraiment d'enlever un fardeau auprès des jeunes parents de fournir des repas aux enfants dans les écoles primaires. Ça commence le temps au Québec qu'on va dans cette direction-là parce que ça n'a aucun sens. Nous, on a un projet, hormis celui-là, qui s'appelle Viséo. On a la chance de faire des tournées dans les écoles et les vendredis, dans les boîtes à lunch, il y a des gens qui verseraient quelques larmes. Donc, c'est pour ma part inadmissible, comme père de 3 enfants, de voir qu'il y a des enfants qui souffrent d'insécurité alimentaire, là, dans le cas présent. Insécurité nutritionnelle plus dans le piton. Mais je pense que c'est l'éducation au goût aussi. Il y a beaucoup de collègues nutritionnistes là, qui font plein de belles choses, mais Il faut démocratiser ça au plus vite. Là. C'est vraiment important.
Je veux qu'on revienne, Nawid, sur le côté s'initier à la cuisine, parce que tu dis, oh mon Dieu, je dis tu. Je pensais du vous au tu. Mais là, je veux qu'on reste dans le domaine de la famille, des enfants. J'imagine que ça fait partie de la solution que d'initier nos enfants tôt à la cuisine. Père de trois enfants passionnés par justement l'alimentation, par la cuisine. Comment ça se passe chez vous d'intégrer les enfants dans la cuisine?
Bien, c'est une fierté. Ça revient, on va y revenir, hein. C'est le concept d'autorité, je vous disais tantôt. C'est d'être intègre, d'être inspirant, d'être une boussole. Et ça a toujours été comme ça à la maison. Ma conjointe est nutritionniste aussi. Et pas plus tard que dimanche dernier, la dernière, qui a 8 ans, c'est elle qui roulait les gnocchis à la maison. Puis je dois avouer qu'elle faisait beaucoup mieux que moi. Donc, ils sont partie intégrante de tout ça. Ils participent parce qu'on y met beaucoup de temps. Et c'est pas mal plus intéressant de cuisiner avec ses enfants que d'être assis aux côtés d'eux en mangeant des choses devant la télévision et pas avoir la chance de communiquer ensemble. Ça fait partie de tous les plaisirs d'être là du début jusqu'à la fin. C'est comme une grossesse, hein? Ça commence au début puis ça finit à un moment donné. Hein, que ça finisse. Mais c'est le fun d'être là à tous ces moments-là. C'est vraiment important. Tout le temps qu'on prend par rapport à l'alimentation, c'est quelque chose qui nous est remis au centuple.
Puis à l'inverse, j'ai l'impression des fois quand je parle à mes parents qu'on est dans deux mondes différents. Tu sais, dans le sens où mes parents sont de la génération, on mange des saucisses pour souper avec des patates en à côté puis une canne de haricots qu'on a ouvert. Moi, j'ai été élevée comme ça. On a mangé ça toute ma jeunesse. Puis toutes les amies de mon âge, dans le temps, on mangeait ça. Je ne sais pas si c'était dans mon village ou d'où je viens, mais en même temps, je viens de la région de Québec. Pas de Québec même, mais quand même. Je veux dire, on a tous été élevés un peu comme ça, puis eux, ils n'ont pas changé leur alimentation. Mais maintenant, moi, avec le bagage que j'ai, avec l'intérêt que j'ai eu pour l'alimentation, des fois, je parle à mes parents qui, bon, s'intéressent tranquillement au lait végétaux, tu sais, puis bon, le goût est différent et tout ça. Tu sais, la famille et tout ça, tu sais, c'est ça, c'est que c'est difficile aussi des fois pour un parent qui n'est pas aiguillé en alimentation, qui n'est pas aiguillé en nutrition, d'intégrer la cuisine à ses enfants aussi. Je ne sais pas s'il y a des trucs que vous pourriez nous donner. C'est-tu de goûter à plein de choses? C'est-tu de laisser le choix à l'enfant de manger ce qu'il veut en l'encadrant? Je ne sais pas, là, j'essaie de voir là, de quelle façon on peut contribuer à prévenir au lieu de guérir, à initier nos enfants le mieux qu'on peut à une bonne alimentation, à la nutrition.
Je pense que l'ouverture d'esprit est la première chose, de faire des expériences. Ça passe par là. Et c'est sûr que l'expérience qu'on va faire va dépendre de la personne qui est en face de vous. C'est sûr que si vous avez un grand chef devant vous, il y a les chances que ça soit réalisé et le produit est réalisé à la perfection. C'est très possible. Il y a, soit dit en passant, d'autres personnes qui vont passer par d'autres chemins. On va y arriver de toute façon. Ça passe par l'expérience. L'expérience idéale, ben, une expérience simple qu'on peut faire, c'est juste de prendre le temps de croquer dans une pomme versus un jus de pomme. Y a un plaisir qui est lié à la texture. En fait, le goût, même on ne devrait pas parler de goût, on devrait parler de flaveur, parce que la flaveur, ça englobe trois modalités qui sont différentes, qui est la gustation, ce qui se passe en bouche, l'olfaction, ce qui se passe au niveau des voies nasales, notamment au niveau du bulbe olfactif, et toutes les sensations liées aux nerfs trijumeaux. Donc, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est sensoriel, et tout ça est mélangé ensemble pour donner finalement ce qu'on mange. Et quand on prend, c'est un exemple qu'on donne dans un projet de recherche qui s'appelle Viséo, là, on compare justement un fruit versus un jus de fruit aux enfants. Et pour être capable de faire passer les aliments par la voie rétronasale, en arrière du nez, et que les odeurs montent jusqu'au bulbe olfactif, il faut mastiquer, il faut inspirer de l'air à contre-courant. Et c'est totalement différent que de boire un verre de jus et de l'absorber comme ça en 7 secondes. Et c'est ça qu'il faut prendre le temps de montrer aux enfants. il y a un plaisir à manger des vrais aliments et c'est souvent là que le plaisir va commencer. On peut prendre exemple des framboises en bonbon versus une framboise naturelle. Dans une framboise naturelle, il y a 230 molécules là-dedans qui constituent la saveur de la framboise. C'est énorme. C'est immensément difficile à reproduire. C'est même impossible. Il n'y a aucune framboise qui se ressemble. Et quand on a la chance de tomber sur des framboises sauvages, c'est déjà très différent que des framboises d'élevage. Donc ça, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, quand vous regardez les enfants et vous les mettez face à des produits comme ça, des produits frais comme ça, moi, j'ai été élevé en Gaspésie, je l'ai dit tantôt, je me souviens très bien que quand on arrivait à l'école à l'automne, on avait été ramasser des noisettes avant que les écureuils les ramassent, mais c'est des noisettes des bois. C'est pas les noisettes qu'on nous vend, c'est totalement différent. Mm-hmm. Tous les enfants mangeaient dans mon village. On mangeait peut-être pas de saucisses et... de patates pilées, de...
haricots en canne.
Haricots. C'est où, ce village?
Ah, ben moi, je viens de Donnacona, mais sérieusement, je tout près d'ici, dans la région de Québec, mais honnêtement, j'ai l'impression que je représente bien des gens de ma génération qui ont grandi de cette façon-là. Nawit, vous semblez être peut-être plus en accord ou moins surpris par ce que j'ai dit.
Ben, je suis très d'accord avec ce que vous dites. Et j'écoute, en fait, depuis tantôt, M. Michel Lucas, et je me dis quand même, il déborde de connaissances, puis c'est quelque chose qui est, dans mon jargon à moi, très high yield, mais dans la vie de tous les jours, j'ai pas l'impression que tout le monde connaît toutes ces caractéristiques-là. Puis je pense que l'important... éventuellement, on peut arriver à ce point-là de connaissance puis d'essayer d'être pratiquement un chef, j'ai l'impression. Mais je pense que l'important, c'est un peu comme le sport, comme n'importe quelle forme d'art, musique, violon, piano, etc. C'est de s'initier très jeune. Mm-hmm. Puis une fois qu'on s'initie jeune, on va avoir justement développé certaines habiletés. Et c'est à partir de là, puis pour revenir au point de départ, la cuisine, c'est un art. Je pense pas qu'il y a une seule façon de faire les choses, mais si on se sent à l'aise dans la cuisine pour justement prendre certains aliments, d'utiliser des nouveaux aliments, de savoir différentes techniques, on va être capable d'arriver à quelque chose qui va être potable, qui va être bien, qui sera pas nécessairement des haricots en canne, par exemple. Non, je plaisante. Mais non, c'est ça pour dire...
C'est le running gag, c'est pas...
Non, mais dans le sens que... Puis, moi, j'ai fait une transition. Je suis passé de chez mes parents à Montréal et je suis allé à Québec. Et, je veux dire, chez mes parents, j'étais assez dépendant d'une certaine façon. C'est sûr que je cuisinais quand je pouvais. Mais je pense que c'est une réalité qui est quand même proche de beaucoup d'étudiants. Fait que là, tu te retrouves du jour au lendemain à toi-même. Fait que là, t'as l'option facile d'utiliser des applications où que tu peux te commander de la bouffe, tu peux juste aller au restaurant tout le temps, ou tu peux manger à la cafétéria, ou tu peux cuisiner aussi. Fait que pour arriver à un moment dans ta vie où que du jour au lendemain, tu te retrouves indépendant d'un point de vue culinaire, il faut que tu aies certaines connaissances de base, puis t'apprends pas ça à 20 ans quand t'es rendu tout seul en appartement, où il faut que tu gères toute ta vie, tes études, si ça, travailler, etc. Là. Fait qu'il faut s'initier jeune, il faut s'intéresser, puis je pense que c'est là que ça part de l'intérêt, puis après ça, tu une fois que l'intérêt est là, tu es capable d'aller sur Internet, c'est tellement accessible, puis tu es capable de développer tes compétences, puis d'y aller là, un peu freestyle, là, à la limite, là, puis c'est bien correct. Je suis sûr qu'en déménageant à 17 ans, puis d'être forcé à cuisiner, ça nous a, en fait, je m'inclus là-dedans, là, ça nous a forcé à s'y intéresser, puis c'est un peu pourquoi aujourd'hui, vous avez une démarche culinaire qui est différente de vos parents, par exemple.
Et je pense que ces inspirations-là concluent très bien notre premier épisode de ce balado qui s'appelle Santé sans rendez-vous. Et on s'est donné la mission de terminer chaque épisode avec un exercice, donc une question que je vous pose à chacun de vous. Michel Lucas et Nawid Younousada.
Très bien.
À deux fois.
Wow.
Je suis pas super. La question est la suivante, puisque ça s'appelle Santé sans rendez-vous. Avec qui, mort ou vivant, avec qui aimeriez-vous prendre rendez-vous dans la vie?
Pour cuisiner, on parle, hein?
Tout domaine, toute expertise, tout sujet confondu, avec qui?
Ah, mon Dieu. Je vais prendre un double.
D'accord.
Comme un expresso, un double expresso. porte le même prénom, en fait. S'appelle Albert, toutes les deux. Tous les deux sont scientifiques. Tous les deux ont un penchant énorme pour la philosophie. je pense que je les admire beaucoup plus pour leur côté philosophique et sociologique. Je pense à Albert Einstein et Albert Jacquard, notamment Albert Jacquard qui a aidé à fonder la Maison des leaders et a dit à des collègues, il faut fonder une société ou une organisation qui vise la pédagogie de la rencontre. C'est vraiment deux personnes qui m'inspirent énormément. J'aimerais tellement passer une journée avec eux. Pourquoi pas la pêche au saumon, partager un repas avec eux. Mais oui, ce serait eux.
Nawid?
Je vais rester quand même dans la thématique culinaire là, pour ma réponse. Et c'est un peu cheesy, là, mais je vais aller comme ça, mais avec ma grand-mère. Ma grand-mère qui, du côté maternel, en fait, c'est une personne extraordinaire avec qui je passe du temps, mais peut-être pas assez finalement. Et qui a tellement, j'ai tellement beaucoup de choses à apprendre d'elle, autant dans la cuisine que dans la vie de tous les jours. Mais j'ai l'impression que... Il me manque un certain bagage culturel que je peux vraiment aller chercher là-bas. J'ai grandi à Montréal, je me considère plus québécois qu'afghan, mais il y a ce côté-là qui, pour moi, est très important. Puis que j'étais pas, durant mon adolescence, c'est pas ça qui m'intéressait, qui m'interpellait nécessairement. Puis, en fait, en me posant la question, je réalise que en fin de semaine, il faudrait que j'aille la voir, puis que je m'assoie, puis qu'on cuisine ensemble, un peu comme Michel fait avec ses enfants. Puis, ça va me permettre de la côtoyer, mais aussi d'apprendre un peu sur elle, puis sur la cuisine. Fait que aujourd'hui, c'est ça ma réponse, mais peut-être que demain, ça serait différent, mais beaucoup de choses à apprendre d'elle.
Vous allez cuisiner quoi?
Des mets afghans. Il y a quelque chose qu'on appelle du mantou et du kabli, pour ceux que ça intéresse. Le mantou, c'est des genres de dumplings, là, en français, peu importe, là, des dumplings, là, c'est tel que tel. Puis le kabli, c'est un riz qui dans lequel il y a des carottes, il y a de la viande et des raisins. Puis souvent, on peut mettre des pistaches, puis il y a des épices à travers de tout ça. Fait que c'est super intéressant. C'est très populaire. C'est en fait, je pense, c'est les deux plats que les gens reconnaissent d'habitude là, en Afghanistan. Fait que c'est ce qu'il faudrait que j'apprenne à cuisiner, justement, là, si je veux le transmettre à mes enfants. Chose que je ne sais pas faire, malheureusement, mais sur lesquelles je travaille. J'ai appris les recettes plus simples, mais en même temps, c'est des recettes qui prennent beaucoup de temps. Puis moi, je suis une personne qui est très pragmatique. Il faut que ça se fasse en 20 minutes. Je sais que c'est un
des... Il faut casser le moule.
Ouais. Et
voilà. Je reconnais mes limites. Puis c'est ça. Fait que faut que je m'intéresse. Faut que je prenne le temps. Puis c'est des activités qui sont plaisantes. Fait que voilà.
Messieurs, Michel, Nawid, ce fut un plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à ce balado nommé Santé sans rendez-vous.